Ok. Ah ouais, j'enlève le masque. Vous me reconnaissez? C'est bon. Ah, c'est lui. C'est qui celui-là? D'accord. Merci à Zacharie pour cette première partie, enfin ce moment de culte où nous avons déjà pu voir beaucoup de choses, ceux qui sont intervenus avec lui. Alors c'est le premier dimanche de l'Avent, ça a été dit. Et le petit coup de neige ce matin nous a aidé à y penser, en tout cas à rentrer dans cette logique-là. Jusqu'à maintenant, bon, on n'était pas trop sûr, hein. Mais puis en plus, c'est le mois de novembre, hein. Le premier dimanche de l'Avent, quand ça tombe en novembre, on n'est pas trop encore dans le mood, quoi. C'est, hein, c'est, voilà. Et là, petit coup de neige ce matin, c'est bon, on y est, on arrive à l'église, décoration, tout est fait, tout va bien. Alors je vais vous lire un texte qui va avec la période, hein, parce que, commençons avec cela. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 1. C'est l'annonce qui est faite à Marie, tout simplement. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de cette jeune fille était Marie. Gabriel entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie. Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? » Et je m'arrête là parce que c'est là-dessus que je souhaite un peu vous emmener en réflexion ce matin. Marie reçoit une visite pour le moins troublante, hein, c'est ce que ce récit veut nous raconter, évidemment. Et ça m'a fait réfléchir à un certain nombre de circonstances où Dieu fait irruption dans les vies. Dieu fait parfois irruption dans nos vies, par différents moyens. Et la question que je vais vous inviter à creuser un petit peu ensemble ce matin, pendant un petit moment, comment réagissons-nous ? Qu'est-ce que ça enclenche? Qu'est-ce que ça déclenche? Ou qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence? Mais d'abord, ça veut dire quoi que Dieu fait irruption dans ma vie? Où est-ce qu'il est, Dieu? Par quel chemin vient-il? Est-ce qu'il n'est pas partout, hein, tout le temps partout? Donc forcément, il intervient? Ou bien, est-ce que c'est comme certains peuples le croient, une espèce de caché dans un coin, cherchant à nous faire du mal, et à ce moment-là... Les cultes anciens où il fallait amadouer les dieux parce qu'ils pouvaient venir vers nous. Toute l'histoire de la Bible est centrée sur une compréhension bien différente de celui qu'on appelle Dieu. Ça a été évoqué tout à l'heure, hein, et il a communiqué, puisque je vais reprendre les mots de Zacharie, il a rencontré Adam, vous savez, dans le jardin. Où es-tu? Quand Dieu vient voir, il cherche Adam. Où es-tu? C'est une forme de... Il le rencontre, il fait irruption dans sa vie, il cherche... Il a parlé à Abraham : « Va-t'en de ton pays, loin de ta parenté, et je te guiderai vers un pays, tu ne sais pas où, mais fais-moi confiance. » Tant d'hommes et tant de femmes que Dieu a rencontrés en faisant irruption dans leur vie. Et alors, c'est difficile à comprendre, puisque nous sommes des êtres humains avec un cerveau certes large, mais limité quand même. Et les seules références que nous avons, c'est en quelque sorte nous-mêmes. Et on a parfois l'impression que l'irruption de Dieu dans une vie, c'est comme quand on se rencontre entre nous. Mais on voit bien que nos mots sont trop petits. Si on dit juste que Dieu est une personne, comme nous un peu, c'est un peu comme si nous faisions Dieu à notre image. Et il vient nous rencontrer, il fait ci et il fait ça, et on lui prête des actes, même des pensées qui sont très humaines. Mais si à l'inverse, on dit que Dieu, c'est une idée, une force, on retombe dans ce que j'ai dit tout à l'heure, il est partout, il est, et on perd le fait que toute la Bible nous parle de rencontres personnelles, des choses qui ont touché personnellement les gens. Et puis quand on voit dans la Bible parler de certaines personnes, Enoch, Abraham, Moïse, dont il nous est dit qu'ils marchent avec Dieu, ils ont marché avec Dieu. Ça aussi, c'est une expression, ça veut dire quoi ? Pour nous, dans notre compréhension à nous, marcher avec quelqu'un, on voit bien, enfin, quand on va marcher avec Huguette, on voit ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu marche avec nous? Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean va même plus loin, puisque Il envisage que Dieu vienne manger la soupe avec nous. Hein? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3:20, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu est prêt à faire tellement irruption dans nos vies qu'il est prêt à manger la soupe avec nous. Hein, ce moment où on partage quelque chose autour d'un repas. Alors pour Marie comme pour nous, une irruption de Dieu dans notre vie va nécessairement amener des questions, sans doute des changements, bousculer sans doute des façons de faire, même des façons de penser. Et après tout, est-ce que ça n'est pas logique? L'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand Christ, quand Dieu fait irruption dans notre vie, tout va changer. Notre point de vue, la façon de concevoir ce qu'est notre vie, vers où elle nous mène, peut-être même la façon de voir les gens autour de nous, tout cela va changer. Et alors je me suis penché sur quelques autres exemples où des gens, devant l'irruption de Dieu dans leur vie, posent cette question, mais comment c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Des exemples qui vont pas, voilà, qui vont reprendre des versets, des textes bibliques que vous connaissez certainement. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, on va lire quelques textes. Nicodème vint de nuit auprès de Jésus. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Je ne vais pas lire tout le texte, mais vous connaissez cette rencontre où Nicodème, qui est présenté comme un chef des Juifs, comme un notable, il vient un peu en catimini, sans doute parce qu'il a décelé en Jésus quelqu'un d'un peu particulier. Il est déjà un peu... Quelque part, Dieu a déjà un peu fait irruption dans sa vie. Hein. Sinon, il ne serait pas venu. Voilà, il n'était pas venu envoyé par les autres, puisqu'on voit qu'il continue à être en opposition à la plupart des chefs des Juifs. Mais il vient parce qu'il a des questions à se poser. Il a décelé en Jésus quelqu'un de particulier. Et il voit, du coup, certaines de ses certitudes s'effondrer un petit peu au fur et à mesure qu'il discute avec Jésus ce jour-là. Jusqu'à cette révélation que Dieu lui fait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus se révèle à Nicodème. Cette irruption dans la vie de Nicodème, elle est totale. Mais Nicodème, à un moment, n'en peut plus de ces choses qui bousculent ses certitudes, qui bousculent ce qu'il est. Et au verset 10, au verset 9, Nicodème dit, mais comment cela peut-il se faire? Et oui, cette irruption de Jésus dans sa vie l'amène tout d'un coup à se poser des questions, parce qu'il voit bien que toute l'architecture intellectuelle et théologique qu'il avait, il y avait plein de bonnes choses vraisemblablement, hein, mais tout d'un coup tout ça se fissure, parce qu'il faut que Jésus l'amène vers l'essentiel, et l'essentiel c'est qu'il a donné sa vie pour lui, et que tout cela doit maintenant se lire avec ce prisme, parce que Jésus est mort pour toi, Nicodème, parce que je vais donner ma vie pour toi. Alors, voilà, comment cela peut-il se faire? Quand Jésus rentre dans ma vie, est-ce que je suis prêt à laisser tomber certaines de mes certitudes, même théologiques, et être bousculé? Un autre exemple, dans le livre des Actes, au chapitre 9, là encore, un texte bien connu, la conversion de Paul, enfin de Saul, il s'appelle Saul, il va s'appeler Paul après. On ne va pas lire le verset, le texte, vous lirez dans les Actes au chapitre 9, mais Saul était connu pour en vouloir du mal à cette secte qui s'appelait les chrétiens. Pour lui, ce n'était pas possible, la vraie foi, c'était la foi telle qu'il l'avait apprise depuis son enfance et telle qu'il l'a pratiquée. Et là, des gens, des sectaires, des hérétiques, des je sais pas quoi. Donc, il fait tout ce qu'il peut pour lutter contre eux. Et sur un chemin, tout d'un coup, il est frappé par quelque chose qui le fait tomber à terre, un éclair. Il dégringole de son cheval, il y voit plus clair tellement l'éclair était puissant. Et il tomba à terre, c'est Acte 9, verset 4, entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. »« Seigneur, dit-il, que veux-tu que je fasse ?» Voilà la question, là, cette fois, qui se pose à lui. « Seigneur, tu rentres dans ma vie, tu fais irruption, là. Tout d'un coup, tu me frappes de quelque chose auquel j'ai l'impression de ne pas pouvoir résister. Mais que veux-tu que je fasse de tout cela ? » Certes, les barrières tombent. Ok, je comprends que manifestement je n'étais pas sur la bonne voie, mais maintenant que je me suis converti, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Comment je vais retrouver une place? Comment je vais retrouver ma place? Imaginez le pour Paul, je l'appelle Paul, mais il s'appelait Saul, bon, ouais, je l'ai déjà dit. Il était bien connu dans un sens très très engagé pour lutter contre cette nouvelle secte. D'un seul coup, il se rend compte qu'il va falloir qu'il fasse la conversion, on dit toujours, c'est quand on fait demi-tour au ski, là, vous savez, le machin, on fait comme ça, puis on se casse la figure après, d'accord bon. Et il faut faire demi-tour à 180 degrés. Et c'est ça que Jésus va demander à Paul. Tu étais parti dans cette direction, moi je te demande d'aller par là. Que veux-tu que je fasse? Comment je vais faire pour intégrer cette irruption de Dieu dans ma vie et de pouvoir continuer à vivre? Eh bien, sachant que ça peut prendre du temps. Ça peut être long. L'apôtre Paul nous raconte dans l'Épître aux Galates qu'au moins pendant 3 ans, il a fait une espèce de... Enfin, il s'est caché, quoi. Il s'est peut-être tout simplement caché parce que du coup, il était mal à l'aise avec les gens qui l'envoyaient. Enfin, bref, c'était un traître à la cause. Donc, il est allé s'isoler pendant 3 ans en Arabie. Et puis après, il nous raconte, ça a pris un certain temps avant que Saul, devenu Paul, puisse prendre la place que Dieu avait en réserve pour lui. Ces 3 ans pendant lesquels il a sans doute étudié, réfléchi. Et petit à petit, cette irruption de Dieu dans sa vie a produit du fruit qui l'a amené à être l'apôtre et à être celui qui a pu annoncer et faire éclater l'évangile au-delà du monde juif jusqu'à nous, en quelque sorte. Alors, quand Dieu fait irruption dans nos vies, sommes-nous impatients en disant, puisque j'ai compris, je me suis converti, mais alors du coup je vais devenir Billy Graham, quoi, ou je sais pas quoi, il faut au moins un stade avec 30 000 personnes, pas forcément, ça peut prendre du temps, et Dieu va nous amener vers le chemin qu'il a préparé, mais quand Dieu fait irruption dans une vie, vous voyez ce que ça a fait pour Paul, il a dû faire un demi-tour complet et changer complètement, mais soyez patients, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, il vient intervenir dans nos vies, et à chacun, il va dire, il va nous aider à trouver par quel chemin nous devons passer. Et justement, dans l'évangile de Jean, on revient un peu en arrière dans nos Bibles, au chapitre 14, c'est un des 3-4 grands chapitres où Jean a rassemblé ce qui fait le grand discours terminal du ministère de Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place, et là où je vais, vous en savez le chemin. Et Thomas dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment saurions-nous le chemin? Comment pouvons-nous savoir le chemin? Thomas, c'est l'homme qui pose les questions qui dérangent, enfin, en tout cas, qui n'hésite pas à poser des questions un peu piquantes, si j'ose dire, on va dire ça comme ça. Voilà, il dit des choses que d'autres peut-être hésitent à dire. J'aime bien Thomas. Je ne cherchais pas de ressemblance. Mais Thomas est inquiet. Il dit, attends, qu'est-ce que c'est ce discours-là? Tu nous as emmenés sur des chemins. On a vécu des choses extraordinaires. On a appris des choses extraordinaires. Là, on sent bien que c'est en train de se tendre. On sent bien que l'opposition est forte. Malgré tout, tu décides de retourner à Jérusalem et tu nous dis que tu vas quelque part. Mais tu vas où? Comment pouvons-nous savoir le chemin? C'est peut-être une question que nous avons tous, les uns et les autres, dans notre cheminement. À certains moments, on ne comprend plus. Il y a des tas de trucs qui arrivent dans tous les sens. Et, Seigneur, mais comment pouvons-nous savoir le chemin où tu veux nous amener? Où cela me mène-t-il de continuer à dire que je suis chrétien? Où cela me mène-t-il de continuer à en parler autour de moi ou à vouloir vivre une vie de telle ou telle manière? Quand on voit qu'autour de nous, plus personne n'y croit, je ne sais pas, ça vous frappe pas des fois? C'est toujours dérangeant, ça, hein? Zacharie parlait de la préparation de Noël dans les supermarchés, mais effectivement, aller voir les montagnes de préparation de cadeaux et chercher une référence à Jésus au Jésus de la Bible dans cette montagne de préparation pour Noël, si vous en trouvez, vous me le direz, parce qu'on trouve beaucoup de choses, et même des tas de calendriers de l'Avent avec tout ce que vous voulez, de la bière, du whisky, du machin, tout ce qui est des chocolats, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Mais où est la révélation divine, l'irruption de Dieu? Alors, dans ce monde-là, comment pourrais-je savoir le chemin par où je dois marcher? Comment pourrais-je savoir où je dois aller? Et Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce qui nous reste, c'est nous raccrocher à ce que Jésus nous dit dans sa parole. Ce qui nous reste, c'est de rester accroché, de faire confiance à ce que Dieu veut nous montrer. Il communique avec nous, il fait irruption dans notre vie. Bien sûr, ça nous bouscule. Bien sûr, ça nous dérange. Bien sûr, ça nous met parfois en position un peu instable, inconfortable, parce que nous réagissons différemment, peut-être, des gens autour de nous. Parce que nous allons dire une parole qui va étonner les gens. Peut-être parce que nous le faisons trop fort, d'ailleurs, des fois. Il faut aussi savoir doser, on va dire, la manière de parler aux gens. Mais dans cette question, comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Écoutons la réponse de Jésus lui-même. Encore un autre exemple de ces gens qui, quand Dieu fait irruption dans leur vie, tout d'abord, la question c'est mais comment cela peut-il se faire ? Comme Marie, et nous reviendrons à elle tout à l'heure. Dans les Actes au chapitre 2, là aussi, un récit très connu, la Pentecôte, il se passe un événement extraordinaire, et là l'irruption de Dieu, elle a lieu en public, si j'ose dire. Jusque-là, c'était relativement privé, un cercle restreint. Là, c'est en public, et si on comprend bien ce que nous dit le récit des Actes, ça a même fait grand bruit, et tout le monde s'attroupe de partout en se demandant qu'est-ce que c'est que ce bazar-là. Il y a du bruit, ça parle dans toutes les langues, il y a de l'excitation, etc. Que se passe-t-il ? Et la foule, après avoir entendu le discours de l'apôtre Pierre, qui va du coup faire une prédication pour expliquer ce qui est en train de se passer, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur touché et dirent à Pierre, « Frère, que ferons-nous ? » Encore une fois, Dieu fait irruption dans leur vie. Et si on lit le récit, c'était des gens qui venaient fidèlement respecter une instruction, la fête de la Pentecôte. Ils étaient venus de toute la diaspora juive, on va dire. Ils venaient à Jérusalem se rassembler. Et il y avait un certain rituel à respecter. Enfin, tout ça était parfaitement codifié. Et ils étaient bien là-dedans. Et puis, tout d'un coup, il se passe un truc incroyable. Et Pierre leur dit, « Oui, voilà, le Saint-Esprit est en train de transformer le monde à partir de ce moment-là. » Et du coup, l'irruption de Dieu dans la vie de ces personnes, « Frères, que ferons-nous ?» Ça bouscule les habitudes. Alors parfois, Dieu fait irruption dans nos vies avec des événements extraordinaires. On raconte que Luther, a vu son orientation, Luther, donc le grand réformateur, parce qu'un jour, rentrant de sa famille, en 1505, nous dit-on, le 2 juillet 1505, il traverse un orage et la foudre tombe à deux pas de lui. Il est tellement pétrifié de trouille qu'il a peur, il a eu peur, comme on peut avoir dans ces cas-là. Et c'est ça qui l'a fait se tourner vers Dieu et prendre confiance que Dieu allait l'accompagner. Et après, il a cheminé. Il peut y avoir des événements extraordinaires. Je me rappelle quand vous vous rappelez le tsunami en Thaïlande, là, on ne sait plus quelle année c'était, en 1999, je pense que c'était ça, ou 2000 combien ? Bon, enfin bref, voilà. Et je me souviens avoir prêché le dimanche juste après, parce que c'était comme ça, c'était mon tour, si j'ose dire. Et je me rappelle, j'avais vraiment été amené à utiliser en quelque sorte cet événement qui nous parlait terriblement, même si c'était loin de tout, mais c'était tellement un événement extraordinaire, hors du commun, que j'avais l'impression que Dieu, en quelque sorte, faisait irruption dans nos vies pour nous dire quelque chose au travers d'un événement dramatique qui s'est passé à des milliers de kilomètres. Dieu parfois intervient comme ça, de manière collective, mais dans tous les cas, que ce soit par un événement dramatique, que ce soit heureux, que ce soit simple, que ce soit complexe, la réponse que Dieu attend, elle est toujours personnel. La réponse que Dieu attend à ces irruptions qu'il fait dans nos vies, même si elles nous arrivent par un événement collectif, global, par une interpellation qui dépasse largement notre cercle habituel, la réponse qui est attendue de nous, c'est Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La réponse qui était attendue, repentez-vous, allez jusqu'au bout de votre démarche, acceptez que par vous-même, il vous manque quelque chose, et que si Dieu fait irruption dans votre vie, c'est justement pour que vous sachiez attraper sa main et ne plus vous confier dans des certitudes qui sont plus fragiles que cela. Et puis il y a d'autres exemples où Dieu fait irruption dans les vies. On va raccourcir un peu parce que le temps passe. Mais combien d'exemples dans la Bible? Moi, je pense, vous savez, je lis un bouquin qui fait un commentaire de l'évangile de Marc en ce moment. Donc j'ai ce texte, j'ai lu il n'y a pas longtemps les commentaires sur le récit où Jésus traverse la mer de Galilée. Il va dans le pays des Gadaréniens. C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 4. Et là, il tombe nez à nez avec un fou furieux, quoi, on va dire ça comme ça. Enfin bref, quelqu'un qui était un démon, mais qui était pris de crise de... On dirait aujourd'hui qu'il avait des troubles du comportement. Hein, voilà. Enfin bref, on trouverait des mots selon les nomenclatures de la psychiatrie. Mais il était, bref, il avait été chassé de partout. Et la seule chose qu'il arrivait à faire, c'était exprimer sa souffrance par des hurlements en vivant dans le cimetière. Il vivait là et Jésus le guérit. Et la réaction des gens, c'est qu'ils supplient Jésus de quitter leur pays. Alors bien sûr, il y a l'épisode malheureux où du coup il y a des cochons qui avaient pris peur et qui étaient allés se noyer dans le lac. Vous lirez ce récit dans l'évangile de Marc au chapitre 5. N'empêche que sur l'irruption de Dieu dans leur vie, ce qu'ils ont retenu, c'est que ça dérangeait tellement leur existence et éventuellement leur source de revenus, qu'ils préféraient que Jésus s'en aille. Ils avaient été incapables de l'accepter. Et puis pensons aux foules, tout simplement, qui, quand Jésus entre à Jérusalem le jour des rameaux, sont prêts à ce que l'irruption de Jésus dans leur vie, ça transforme tout. Ils vont en faire leur roi, ils vont l'honorer. C'est Hosanna au fils de David. Ils reconnaissent en lui quelqu'un, celui sur lequel on peut compter. Et puis, peut-être pas toujours, pas tous les mêmes, mais certains d'entre eux, on nous dit la foule en tout cas, quelques jours plus tard, qui dit « crucifie-le », qui est prête à dire « ben non, ça ne va pas être possible finalement, on préfère rester fidèle aux autorités terrestres et puis à ce qui fait notre vie d'aujourd'hui ». Donc les écueils sont possibles. Parfois nous aussi, des fois, quand Dieu fait irruption dans notre vie, ben, nous ne serons pas forcément prêts, nous aurons peut-être du mal, et puis peut-être que nous attendons des choses qui sont pas ce que Dieu veut pour nous. Est-ce que nous savons d'abord nous placer dans l'humilité, d'abord, sous la grâce de Dieu, et que lui puisse intervenir? Juste un exemple rapidement, je ne lis pas les textes bibliques parce que ça prendrait trop de temps, mais si vous voulez, ceux qui veulent, je pourrais leur donner toutes les références. Vous savez, il y a l'épisode dans l'Ancien Testament où il y a le prophète Élie, c'est dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, et il y a une espèce de concours avec les prophètes de Baal. Donc Baal, c'était l'ennemi de Dieu, en quelque sorte. Donc il y a Élie, le prophète de Dieu, et les prophètes de Baal, et on voit les prophètes de Baal qui supplient Dieu d'intervenir pour brûler leur sacrifice, pour tout ça. Et Élie, lui, quand il intervient, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il dit, bah, « Dieu, voilà, je te laisse tout ça, montre ta puissance. Je me remets à toi, c'est toi qui vas te démontrer, c'est pas moi, c'est pas ma force, tu vas démontrer ta puissance. » Élie était prêt à admettre que Dieu, l'irruption qu'il allait faire dans sa vie, allait véritablement démontrer la puissance de ce Dieu-là. Quand nous prions, c'est aussi cela qui est peut-être la première chose à faire. Hein, c'est André Trocmé, qui était pasteur au Chambon-sur-Lignon pendant la guerre, hein, qui a aidé à protéger beaucoup de Juifs, qui dit « La prière consiste surtout, d'abord, à mettre notre volonté à la disposition de Dieu. » Et quand nous prions, bien sûr, il y a peut-être des demandes à faire. Enfin, la prière a de multiples côtés, si j'ose dire. Mais la première des choses, est-ce que nous savons mettre notre volonté, notre être à la disposition de Dieu pour qu'il puisse faire irruption dans notre vie et que ça puisse vraiment transformer notre vie? Et pour terminer, je vais revenir à notre premier texte. Ce texte de Marie qui, donc, voilà, reçoit une visite pour le moins étrange. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi jamais. Que l'archange Gabriel, voilà, c'est un truc extraordinaire. Et donc, on était arrêté au verset 34. « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. » Et Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et puis après, Marie va voir sa cousine Élisabeth, qui elle aussi comprend qu'il est en train de se passer des choses extraordinaires. Et Marie dit, Mon âme exalte le Seigneur, et c'est ce qu'on appelle le Magnificat, hein, puisque c'est le premier mot en latin de ce très beau texte. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de biens les affamés, renvoyé à vide les riches, il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance, pour toujours. Et pour terminer, il y a bien eu irruption de Dieu dans la vie de Marie, comme il y a eu irruption dans la vie de Paul, comme il y a eu irruption dans la vie de Thomas, comme il y a eu irruption dans les autres exemples que j'ai donnés, et tant d'autres, qu'on aurait, et dans nos vies, à nous, hein, on pourrait prendre des exemples, c'est-à-dire plus proches de nous et actuels, en quelque sorte. On ne sait pas qui était cette femme, on sait que Joseph était de la famille de David, donc on se dit, lui, il faisait d'une lignée un peu connue, mais elle, beaucoup moins. Et ce qui nous importe, ce qui est fondamental, c'est comment ça... Elle a réagi d'abord... Qu'il me soit fait selon ta parole, ma volonté est soumise à ta parole, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle accepte que Dieu fasse irruption dans sa vie. L'épisode que j'ai passé où elle va voir Élisabeth, elle reçoit un témoignage. Élisabeth lui dit « Oui, tu portes en toi un enfant qui sera extraordinaire. Je le sens parce que mon propre enfant, Jean-Baptiste, a tressailli dans mon ventre. » Vous lirez ce texte dans Luc au chapitre 1, verset 41. Et puis elle transforme ça en un chant de joie et de reconnaissance, ce Magnificat, dans lequel il y a à la fois l'expression de sa joie et le fait qu'elle raccroche ça à toute une histoire. Dieu fait irruption dans sa vie, mais il fait irruption dans sa vie comme il a fait irruption à plein de gens. Et vous voyez toutes les références que Marie fait dans son Magnificat à des textes de l'Ancien Testament, des choses anciennes. Tout est dit dans cela, c'est de tout temps. Et c'est exactement le verset que nous lisait Zacharie dans Hébreux 1, verset 1. Après avoir plusieurs fois et de plusieurs manières parlé par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils. Et en quelque sorte, voilà l'irruption de Dieu dans la vie. C'est une longue histoire où Dieu veut intervenir dans nos vies. Alors peut-être que le temps de l'Avent, hein, la période, les 4 semaines que nous avons devant nous, alors ce n'est pas des semaines plus extraordinaires que les autres, elles sont faites de 7 jours comme toutes les semaines de l'année, mais c'est quand même un petit quelque chose qui, j'espère, nous amènera tous à réfléchir, est-ce que Dieu me parle, comment est-ce qu'il me parle aujourd'hui, qu'est-ce qu'il attend de moi, et est-ce que cette irruption de Dieu dans ma vie peut transformer quelque chose. Et je vous invite peut-être à terminer par la prière. Seigneur, nous avons chanté beaucoup de choses qui nous disent que tu nous aimes, où on s'est engagé, où on a dit je sais que tu m'aimes, et cet amour se manifeste dans nos vies, aujourd'hui nous le croyons. Peut-être de manière simple, ordinaire, ou peut-être de manière extraordinaire, mais tu cherches à faire irruption dans nos vies et à les transformer pour toi, pour ta gloire et pour le bien de tout ce que tu as créé sur cette terre, que nous puissions être attentifs et que ce temps de l'Avent, cette préparation à Noël, puisse être pour nous l'occasion de réviser peut-être certaines de nos attitudes, de nos paroles ou de nos convictions, pour nous laisser trouver par toi qui veut, oui, communiquer avec nous et qui veut nous faire de nos vies quelque chose qui sera vraiment à ta gloire. Garde-nous, Seigneur, conduis-nous et nous te prions aussi pour tous ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Nous te remettons chacun des gens que nous avons sur le cœur, te demandant que partout sur la surface de la terre, tu puisses visiter ceux qui ont besoin de toi, faire irruption dans leur vie et qu'ils puissent trouver la bonne réponse, celle qui les mettra sur le bon chemin. Amen.